Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacré.
Amis auditeurs des Dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une mère de famille qui vit l'impossible et pourtant indispensable relèvement après le décès brutal de son fils, prénommé Arto. Mort à l'âge de 21 ans, dans son sommeil, à quelques mètres seulement de la chambre de ses parents, le jeune homme a laissé les siens dans une immense peine avec laquelle chacun se débat. Sa mère, journaliste, documentariste et écrivaine, a choisi l'écriture pour lire et relire ce qu'elle vit. Son livre s'intitule « Après Arto » et il est paru aux éditions de l'Observatoire. Hélène Risser, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, vous dites, en écrivant votre livre, que vous avez été globalement plutôt épargné par le deuil, et puis ce jour terrible où vous avez été confronté à la mort traumatique de votre fils, que vous retrouvez dans son lit, dans la position où vous l'aviez vu la veille au soir, au moment d'aller vous coucher. Et bien sûr, tout lecteur attentif scrute au fond ce que vous avez vécu et se demande comment peut-on traverser une telle horreur, une telle sidération.
Ben, c'est la question que je me suis posée moi-même à cet instant-là. Je pense que c'est la question que, surtout quand on n'a pas été confronté au deuil avant, comme c'était mon cas. C'est vrai qu'on a la chance de vivre, enfin moi j'ai 50, un peu plus de 50 ans maintenant, j'ai la chance de vivre épargnée par les drames jusque-là. Et donc je me suis demandé justement comment vivre, comment survivre d'abord. Et je me suis tournée de manière assez automatique, naturelle, au bout de quelques heures, vers une amie d'amis qui avait perdu un fils et dont je m'étais toujours demandé mais comment elle avait survécu. Et voilà, donc je lui ai posé la question en lui demandant ben voilà, quelles sont les entre guillemets recettes, parce que je pense que dans ces moments-là, on cherche une recette, une formule, un remède.
Chez vous, ça devient des commandements, hein, puisque voilà. qui chapitrent votre ouvrage. Oui. Un cahier, tu noirciras, la plaie, tu purgeras.
Il y en a 10 d'ailleurs, c'est vrai que ça m'a, ça m'a amusé, mais de fait je pense qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose qui donne un sens, voilà, et qu'on doit trouver soi-même hein, aussi.
Alors, en vous-même, c'est tapis une ennemie qui s'appelle la culpabilité, et Dieu sait qu'elle est puissante. Comment est-ce que vous avez managé la relation avec elle? Comment est-ce que vous avez réussi à la dompter?
Alors, ça a été très difficile. Je pense qu'effectivement, au départ, en tant que mère, une mère ayant perdu son enfant, forcément, enfin, moi, dans mon cas, c'était moi qui étais coupable. Je pense que souvent, on ressent une grande colère. La colère, elle peut être dirigée contre les autres. Hein, on cherche un coupable ou contre soi. Finalement, c'est un peu le même mécanisme. Et cette culpabilité, c'est vrai qu'elle écrase tout. Et je me suis rendu compte très vite qu'en fait, elle m'empêchait de tenir compte aussi de la souffrance des autres. Celle de ma fille, heureusement j'ai une fille, celle de mon compagnon, celle des amis de mon fils. Et que du coup, cette culpabilité me rendait incapable d'organiser l'indispensable pour moi et pour les autres. Voilà, donc ça a été un long chemin. Mais très vite, j'ai compris dès les premiers jours qu'il fallait que je mette en œuvre quelque chose pour lutter contre. Alors bon, j'ai notamment recouru à de l'EMDR, hein, j'en parle dans le livre. Mais j'ai aussi essayé de me connecter aux autres. Et ça a été extrêmement important, c'est-à-dire de sortir de la solitude et d'essayer de se mettre en action pour se connecter aux autres et organiser, organiser ce qui est terrible à organiser, ce sont les obsèques de mon fils.
Les amis d'Arto ont été importants pour ça?
Très important, oui, très très important.
Ils ont compris qu'il y avait un message à vous transmettre sur cette question-là. Très vite, ils vous ont apaisé, ils vous ont dit « vous y êtes pour rien ».
Bah, mon fils, c'est vrai, n'allait pas forcément très bien depuis longtemps, donc il avait inquiété aussi ses amis. Sans doute que ses amis étaient conscients aussi qu'on avait... qu'on était inquiets, qu'on avait mis en œuvre beaucoup de choses. Et oui, ils ont tout de suite été très présents. Et moi, j'ai été frappée aussi de voir à quel point Parce qu'on dit beaucoup, oui, les jeunes aujourd'hui vivent dans un monde virtuel, etc. Mais à quel point ils avaient besoin de réalité, quoi. Ils avaient besoin de savoir où serait, bon, mon autre fils a été incinéré, où serait l'urne, où seraient les cendres, où il pourrait aller, comment ça allait se passer. Enfin voilà, ils avaient vraiment besoin de choses très concrètes. Et c'est cette demande aussi que j'ai comprise, que j'ai reçue et qui m'a soutenue, parce que je me suis dit, voilà, mon fils va continuer à être aussi vivant à travers ses amis. C'est eux qui vont porter sa mémoire. Et là, je le dis très rationnellement. Au départ, c'était très instinctif, évidemment. Je ne l'ai pas forcément rationalisé comme ça. Et donc, j'ai eu envie de, ben voilà, qu'on fasse quelque chose ensemble autour d'Arthaud.
L'autre sentiment bien légitime, c'est la colère. Les colères, vous les citez dans votre ouvrage. Elles auraient pu toucher le monde soignant, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, mais aussi votre pays, et pourquoi pas la droite, enfin, il y en a pour tout le monde. Mais celle-ci, ou celle-ci au pluriel, oui, vous leur avez fermé la porte. En fait, vous avez décidé de ne pas être une femme en colère.
Non. Ça, vraiment, c'était... Et d'ailleurs, le livre est un livre du travail sur soi et pas du tout un livre d'indignation. Ça a été instinctif. Hein. Je pense que très vite... Alors, c'est vrai que la culpabilité y a pris beaucoup de place. Bon, vous ne pouvez pas être à la fois culpabilisé et en colère. Mais je pense que la colère, elle est destructrice. Alors, évidemment, parfois, on a besoin de faire un procès. On a besoin, évidemment, d'entendre une action en justice. Enfin, je dis pas qu'il ne faut pas se tourner vers ça. Mais je pense qu'il est très important de faire un travail sur soi en parallèle, parce que si on se laisse complètement envahir par la colère, ça stérilise tout et quelque part après on se retrouve seul avec sa colère, sans les autres et sans justement tous ces remèdes, tout cet accompagnement qu'on peut mettre en place. Donc je pense que la colère, elle est mortifère, et moi je l'ai vu autour de moi, effectivement, mes frères, mes parents, enfin notamment ma mère. C'est vrai qu'on voit tout de suite cette colère arriver. C'est tellement injuste, c'est tellement cruel de perdre un enfant de 21 ans. C'est tellement inattendu aujourd'hui. Je me suis révoltée, enfin voilà, je me suis quelque part... Ça aussi, c'est une manière de faire exister mon deuil face aux autres, en disant non, je ne m'enfermerai pas dans ce système de la colère qui paraît peut-être si légitime et si naturel, et peut-être si contemporain aussi, parce qu'on est souvent en colère aujourd'hui.
Vous nous entraînez dans Après Arthaud, je rappelle, c'est le titre de votre ouvrage, dans une quête de ritualité. Et c'est tout un travail, parce que rien n'est évident. Le recours à la foi, par exemple, peut-être, mais pas de façon évidente. Enfin, il y a comme ça vraiment tout un chemin. Et à quoi ce chemin vous a-t-il amené? C'est-à-dire, à quoi ces rites ont-ils servi aujourd'hui, en vous retournant? Vous vous dites, en quoi c'était salutaire?
Alors, je ne sais pas comment je serais si je n'avais pas effectivement accompli ces rites. Pour moi, ça a été indispensable. Je l'ai dit d'abord pour se retrouver. Enfin, je pense que c'est la première fonction des rites, hein. C'est se retrouver ensemble, parce que ben, le deuil, c'est une expérience collective. On peut pas, voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas mener seul. Pour se tenir aux autres. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'instinctif. Hein. On se serre dans les bras, on a besoin d'être ensemble. C'est en restant entre vivants que la vie continue. Et ça, c'est même instinctif, c'est même biologique. Et c'est vrai que, alors, bon, nous, on est dans une famille où il y a, bah, comme dans beaucoup de familles, hein, des gens qui sont croyants, d'autres qui ne le sont pas. Donc, je voulais organiser une cérémonie dans laquelle tout le monde puisse se retrouver, quelles que soient ses sensibilités. Donc ça a été à l'église, mais avec un rituel relativement ouvert aussi.
Très
à des
personnalisés, voilà, beaucoup de prises de parole.
Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, justement, que tout le monde puisse se retrouver. Et on a eu la chance de pouvoir le faire, donc ça a été quelque chose de très fort. Mais le rituel, ça ne s'est pas arrêté à ça. J'ai réfléchi aussi, ben, voilà, au bout de 40 jours, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que souvent, très ça vient au bout de 40 jours. On a eu l'inhumation de l'urne aussi, à organiser quelque chose à ce moment-là, à organiser des rendez-vous aussi avec les amis de mon fils pour les anniversaires. Et d'ailleurs, on le voit, hein, dans toutes les religions, souvent, effectivement, bah, le rituel, il sert à égrener le temps. Et alors, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, en écrivant le livre, j'ai cherché à un peu enquêter sur tous ces rituels religieux de différentes religions, pour essayer de comprendre. Et c'était assez intéressant de voir que, en fait, instinctivement, je m'étais mise dans la logique de ces rituels, parce que je pense qu'ils correspondent à des besoins extrêmement fondamentaux. Quoi. Voilà. On ne peut pas s'arrêter au lendemain des obsèques. On a besoin de se retrouver 30 ou 40 jours après, selon les religions. Bah, j'en ai ressenti le besoin. On a besoin voilà, de marquer les dates clés. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré en nous. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience.
C'est anthropologique. C'est ouais. vraiment propre à l'homme. Vous avez une belle expression, à un moment, vous parlez des mots médicaments. J'aime bien cette formule. Vous vous souvenez comme ça de choses que vous avez entendu qui sont restés gravés dans votre mémoire?
Bah oui, alors je les ai écrits parce que c'est vrai que le temps efface, mais les premiers mots médicaments, ça a été les mots de mon fils, amis de mon fils, le lapsus, c'est ouais. terrible, les mots ben, des...
C'est presque pareil.
Voilà, indirectement, c'est peut-être les mots de mon fils. C'est vrai d'ailleurs que le prêtre qui a organisé les obsèques, moi j'ai voulu prendre la parole et m'a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit, parce que je ne savais pas quoi dire, évidemment, que dire quand on est une mère lors des obsèques de son fils dans ces circonstances, il m'a dit, mais essayez de tirer un enseignement du message, du sens que la vie d'Artaud a pu laisser. Voilà, qu'est-ce qu'il nous laisse, entre guillemets, en héritage. Et ça, c'est vrai que ça a été un exercice, alors à la fois conceptuellement très difficile, mais essayez d'être... dans une logique de transmission. Alors, c'est complètement à front renversé. Qu'est-ce qu'une mère peut transmettre de son enfant? Mais quelque part, c'est vrai que ça m'a aidée. Et de transmission qui, petit à petit, s'est imposée.
Vous dites combien il est malheureux que ce monde n'ait pas une proximité plus grande avec la réalité de la mort. Alors, à travers ce livre, à travers ce témoignage, dont on perçoit très bien ce qu'il vous a apporté d'un point de vue très thérapeutique, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre au monde?
Alors, il m'a apporté, oui, écrire ça apporte, mais moi, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai fait d'une manière journalistique. Moi, je suis journaliste, j'ai voulu mener une enquête journalistique en partant de moi-même, mais pour partager avec les autres sur ce sujet qui me paraît quand même essentiel. On est tous confrontés à la mort et on est, pour la plupart d'entre nous, très démunis, complètement ignorants. J'en parle avec les rituels. Et donc, l'idée, c'est justement de transmettre... autour de cette question, parce que je pense qu'on est tous confrontés à la mort, à travers des proches, à travers des amis qui peuvent perdre des proches. Et justement, je pense que c'est important de savoir un peu ce qui se joue. C'était ça l'objet du partage et de la transmission.
Donc il reste à nos auditeurs de lire votre livre « Après Artaud ». Merci Hélène Risser, et c'est paru aux éditions de l'Observatoire.
Merci à vous.
Nous continuons nos programmes avec Halte spirituelle, avec Madeleine Vatel.
La nouvelle vie promise par le Christ n'est pas tout à fait là, mais elle est certaine, nous dit la Bible. Et c'est ce qui s'appelle l'espérance. Alors à quoi ressemble-t-elle? Michael Edwards, académicien, vient nous redire comment la paix de Dieu n'est pas le repos tel que nous le comprenons, mais une joie qui existe au milieu des horreurs.
Babylon in Babylon, noyé sous de Pontiac, de Cadillac, de Bentley à L.A., de Rolls Royce et de Buick dans la nuit métallique. Babylon in Babylon, noyé sous les flots électrique, de rock and roll, tu recherches un rôle, tu recherches les studios et les traces de Monroe. Les strass et le stress, Dieu, c'est déesse de Los Angeles. Babylon. Étoiles éphémères, tu rêves d'éternité. Hélas, tu vas la trouver. Babylon in Babylon, noyé sous les flots de tes larmes et le charme de la l'avenir du crépuscule, c'est le Sunset Boulevard qui serpente dans le noir. Babylon in Babylon, noyé sous les flots des Sunlight Malibu. Petite star inconnue, tu n'as